Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM, long format focus interview du jour. Alain Ducasse est notre invité. Bonjour Alain Ducasse.
Oui, bonjour. Bonjour
c'est
à tous
pas la
et
première,
à toutes.
Oui, bah, la première fois qu'on vous reçoit, Alain Ducasse, quand on évoque les aventures d'Amnesty International, puisque vous êtes membre d'Amnesty International, avec un rendez-vous qu'on va mettre en lumière ce soir du côté de l'Auberge Landaise à Mont-de-Marsan avec un ciné-débat, un film, The Workers' Cup d'Adam Sobel, que j'en ai failli bafouiller, qui va évoquer, j'imagine, parce que tout est dans le titre, le The Workers' Cup, les travailleurs de la Coupe, évidemment que la Coupe du Monde, elle va débuter, que ce sera cette thématique qui sera développée avec Lola Schulman, qui sera là pour animer le débat. Alors, vous me disiez, Alain, que vous étiez au sein d'Amnesty International, vous organisez de temps en temps, très en alternance, des rendez-vous, et celui-là, c'est vous qui l'avez initié. Il y avait une appétence particulière pour ce thème, autour de ces travailleurs au Qatar, et de tout ce qui s'y passe, Alain.
Ça fait déjà quelques années qu'Amnesty, au niveau national, on va dire, et même international, qu'Amnesty donc s'occupe de cette question-là. Il ne faut pas s'y tromper. Le Qatar a obtenu, on va dire, la Coupe du Monde il y a déjà 12 ans. Et donc, en 12 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et Amnesty, quand même, qui essaie de veiller au grain quand il s'agit des droits humains et là, plus particulièrement, des droits économiques et sociaux, ne pouvait pas manquer, effectivement, de s'intéresser à cette question. Et c'est ce qu'a fait l'ONG. Ensuite, pour nous, on entendait parler évidemment de cette question. On a vu les atteintes quand même terribles qui ont été menées, on va dire, pendant toutes ces années. Et il nous semblait intéressant, d'autant plus que le coup d'emploi allait être donné fin novembre, on va dire, 2022. Mais de faire une petite intervention à notre niveau, bien sûr. Alors, j'insiste bien, c'est vrai que dans notre petite organisation de groupe, bon, chacun prend à un moment ou à un autre, on va dire, en charge l'organisation, mais j'insiste quand même sur le fait que c'est aussi un travail très, très collectif et que chacun prend sa part.
Mmh. Vous l'avez vu, ce film The Workers' Cup d'Adam
Oui,
Sobel.
Absolument.
Ouais.
Alors, c'est un film un petit peu étonnant, c'est un film documentaire, et précisément. Donc, Adam Sobel est un réalisateur qui a grandi en Arkansas, donc je suppose qu'il est américain, et qui s'est intéressé aux questions du sport et au rapport, on va dire, entre le sport et les droits humains. Et donc, en 2017, il a fait ce film qui a été primé, un film important, et qui a la particularité de donner la parole aux travailleurs migrants eux-mêmes. Alors, comment leur a-t-il donné la parole ? À l'occasion d'un tournoi qui a été organisé, mais réellement, au Qatar, à l'initiative d'un certain nombre d'entreprises qui étaient présentes et qui y travaillaient, en particulier pour redorer un petit peu leur blason, parce qu'elles savaient qu'un certain nombre de reproches leur étaient faits. Et donc, à l'initiative de ces entreprises, il y a eu ce qu'on a appelé la coupe des travailleurs, c'est-à-dire que je crois qu'il y en avait 24 ou 25 entreprises qui ont proposé en prenant donc des ouvriers qui travaillaient chez elles, qui ont proposé donc des équipes qui se sont rencontrées, qui se sont entraînées jusqu'à l'obtention d'une coupe. Mmh. Alors évidemment, c'est la coupe des travailleurs, ça n'est pas la coupe, effectivement, la coupe du monde. Et donc, pendant ce tournoi, évidemment, le cinéaste documentariste fait parler, je crois qu'il y en a 5 ou 6, donc joueurs, et qui interviennent et qui parlent de leur motivation, pourquoi ils sont venus au Qatar, quelles ont été leurs conditions de travail, etc. Et donc, c'est tout à fait intéressant d'avoir une parole, je dirais, directe. Mmh. Et j'ajoute que ce film n'est absolument pas misérabiliste. On aurait pu imaginer un documentaire effrayant, on va dire, pour des yeux et des oreilles occidentales, en montrant directement certaines conditions qui ont été les leurs et pendant des années et qui sont toujours les leurs pour une part d'entre eux. Ce film évite quand même cet écueil-là. Et au contraire, je trouve, moi, qu'il présente ses comédiens joueurs, pour le coup, de manière très digne. Mmh. Et absolument pas, j'y reviens, absolument pas misérabiliste.
Les conditions de travail dont on a évidemment entendu parler pendant la construction de tous ces stades, ils sont évoqués quand même, j'imagine qu'on a un petit peu de leurs expériences partagées, forcément.
Oui, dans la mesure où ces travailleurs parlent de leurs conditions, tout simplement, ouais. De travailleurs, et cela pendant des années, j'insiste, fatalement, bon, on a l'évocation d'un certain nombre de problèmes qui n'ont pas été... Ça aussi, il faut quand même le dire pour être juste. Il ne s'agit pas de dire que tout a été catastrophique absolument de A à Z pour toutes les entreprises et depuis 2010 jusqu'à 2022. Évidemment, il faut nuancer le propos. Mais enfin, quand même, les violations des droits économiques et sociaux sont absolument flagrantes. Mmh. Et souvent terrible. Ouais. Alors, je ne sais pas si je peux donner quelques
bien
petits
sûr,
exemples.
Bien sûr, bien sûr.
Mais enfin, il faut déjà savoir que le candidat à l'immigration, parce qu'il y a une véritable immigration au niveau du Golfe, de ces pays du Golfe. Mais nous parlons là du Qatar. Donc, les candidats à l'immigration doivent déjà, au départ, avant même d'arriver dans le pays, doivent s'inscrire dans une agence de recrutement qui sert en quelque sorte d'intermédiaire entre le candidat, on va dire, au travail au Qatar, et les entreprises qui l'embaucheront. Pour ce faire, il est déjà obligé de débourser une somme conséquente qui peut varier entre 1 000 et 3 000 dollars, ce qui n'est pas rien pour des gens qui émigrent précisément parce qu'ils ont des problèmes économiques. Mmh. Alors, c'est déjà faire un pari sur l'avenir. C'est le premier pas, on va dire, de leur entrée dans le piège, parce qu'il s'agit bien d'un piège. Certes, ils y vont, j'insiste, ils y vont de manière volontaire. Personne ne les force. Mais tout est fait pour que, petit à petit, ils soient contraints à des conditions telles que pour eux, ça en devient terrible, et pour les employeurs, eh bien, c'est une possibilité extraordinaire de faire des bénéfices et d'obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le travail. Alors, je parlais des agences de recrutement, mais dès qu'ils arrivent sur place, en admettant qu'ils aient donc leur contrat, ils sont placés immédiatement sous le régime de la kafala. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il y a beaucoup d'émissions en ce moment qui sont présentées et qui parlent de ce régime de parrainage, on va dire. La kafala est une, on va dire, une structure juridique qui permet d'assujettir complètement l'employé à l'employeur. Il y a une dissymétrie totale qui fait que l'employé, lorsqu'il sera engagé avec un contrat qui, par parenthèse, ne sera pas systématiquement respecté, mais enfin, une fois qu'il sera engagé, eh bien, par exemple, il ne pourra plus changer d'entreprise s'il a un contentieux avec elle. Hein, il ne pourra pas changer d'entreprise ou même quitter le pays sans l'accord préalable de l'employeur. Donc, vous imaginez bien que si l'employé, pour une raison ou pour une autre, par exemple, et c'était, et c'est encore monnaie courante, on va dire, si jamais il n'est pas payé régulièrement, et dans certains cas, la paye peut attendre plusieurs mois avant d'être versée, bien le migrant qui n'a pas d'autres ressources, qui se dit « bon, mais je vais peut-être chercher du travail ailleurs », s'il quitte son travail comme cela de son propre chef, il peut être déclaré par l'employeur en fuite, déclaré de cette façon-là à la police, qui vient arrêter l'employé, l'ouvrier. Donc, vous voyez qu'on est très loin d'un régime, on va dire, libéral ou tout simplement organisé par le droit, par le droit international. Alors, la kafala, évidemment, c'est un pas de plus dans le piège. Les salaires non payés, des journées qui au départ devraient faire, parce qu'il y a quand même un droit qatarien qui ne devrait pas dépasser les 10 heures de travail avec une pause journalière, mais dépasse allègrement les 13 heures, 14 heures, avec les conditions climatiques que vous connaissez. Donc, quelquefois sans repos pendant la journée, c'est-à-dire ils font leurs 12 heures, 13 heures, 14 heures d'affilée, et j'ajoute, quelquefois, sans repos hebdomadaire. C'est-à-dire que le travailleur peut passer des semaines, alors, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que ça a été le cas de tous les travailleurs migrants, tout le temps. Mais enfin, il y a eu beaucoup de cas où, eh bien, les journées de travail donc excédaient les 12 heures, 13 heures, et c'était pendant des semaines et même pendant des années. Dans un rapport qu'a rendu Amnesty il y a déjà quelques mois, et qui s'intéressait en particulier aux agents de sécurité, donc qui font fonctionner la machine. On n'est plus dans les travailleurs qui ont construit les stades. Simplement, la question des agents de sécurité. On pourrait croire que, bon, agent de sécurité, ça va, c'est pas non plus physiquement extraordinaire. Bon, eh bien, les agents de sécurité, dans certains cas, eh bien, ils pouvaient faire, Amnesty note les cas précisément, certains jusqu'à 2 ans et 3 ans de travail sans repos. 100 jours de repos. Et si vous prenez l'initiative d'un jour de repos, on vous fait, on vous enlève, évidemment, on vous donne des amendes, en quelque sorte, et on vous réduit un salaire qui est très loin, évidemment, d'être mirobolant. Alors, là encore, le Qatar s'est donné, on va dire, depuis le début des années 2000, un certain nombre de droits. Mais ce droit n'est pas respecté. Il existe, mais il n'est pas vraiment respecté. Donc, on arrive à tout ce qui est condamné, évidemment, par toutes les ONG qui s'occupent de ces questions-là, et en particulier d'Amnesty. On pourrait, encore, je ne veux pas...
Oui, parce que j'imagine que vous pourriez décliner le propos aussi en donnant d'autres exemples à foison, malheureusement.
Oui, c'est effectivement très difficile. Je crois quand même qu'il y a, et ça c'est un autre aspect du problème, hein, spécifique là pour le coup au Qatar. Il y a un autre problème, c'est que cette Coupe du Monde, donc, qui a permis de révéler au monde un petit peu un fonctionnement qui existait déjà, hein, c'est pas nouveau. Hein. Cette Coupe du Monde a, évidemment, comme pays organisateur, le Qatar, mais il y a également d'autres organisations. La FIFA a une responsabilité, on va dire, éminente dans cette histoire-là, parce qu'elle fait partie de l'organisation, elle fait partie de cette organisation et a pouvoir, donc, d'interférer dans le fonctionnement, dans la manière dont le pays a décidé de mener cette organisation-là hors la FIFA pour des raisons qui la regardent, si je puis dire, n'a pas peut-être, en tant qu'entreprise à ce moment-là, n'a peut-être pas joué complètement son rôle, c'est-à-dire rappeler très régulièrement au Qatar ses devoirs et ses droits, certes, mais surtout ses devoirs. Malheureusement, elle s'est trop laissée convaincre par des propos souvent lénifiants, pas que, mais également, ça on le sait aussi maintenant, il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été faites là-dessus, par aussi des visites de chantiers qui étaient très organisées, on va dire, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas voir un certain nombre de choses. Mais on peut quand même leur reprocher de s'être contenté un petit peu trop facilement de ce qu'on leur donnait à voir. Et ça, c'est quand même un reproche. La FIFA, donc la Fédération internationale, mais également les fédérations nationales. Bon, chacun, évidemment, agit selon ce qu'il pense être juste. Mais enfin, bon, si on compare les réponses qui ont été apportées par certaines fédérations nationales de football, les Anglais, les Danois, etc., bon, c'est pas exactement la même chose que la fédération française. Alors bon, c'est pas à nous de commenter les choix qui ont été faits par notre fédération. Néanmoins, on peut aussi éventuellement porter un petit peu la critique. Et donc, montrer que c'est un ensemble de facteurs. Que il ne s'agit pas de dire que c'est le Qatar seul. C'est le Qatar, bien sûr, mais aussi quand même les autres instances, ouais, on va dire, internationales.
De toute façon, ça a été l'occasion, même si on se doutait déjà depuis quelque temps par rapport aux énormes enjeux financiers aussi de ces compétitions, oui, qui prennent le pas. Enfin, j'invente rien, tout le monde le sait, qu'on aime le football ou pas, qu'on regarde la Coupe du Monde ou pas, parce que ça, c'est un autre débat. Mais c'est peut-être l'illustration, j'allais dire parfaite, c'est évidemment pas parfait, mais l'illustration très éclairante de cette problématique, quoi. Avec cette Coupe du Monde au Qatar. C'est, d'ailleurs, même dans le milieu du football, l'attribution au Qatar et tout ce qui s'y est passé, vous savez qu'il y en a qui boycottent, enfin bon bref, c'est vraiment une problématique qui a été mise en lumière à l'occasion de cette Coupe du Monde, quoi. De toute façon, ça c'est sûr. Alors, une bonne chose sans doute, parce que c'est peut-être la prise de conscience, mais là je suis en train de dire des trucs que je pense, je ne sais pas si je peux me l'autoriser, oui, mais c'est peut-être la possibilité de se rendre compte, de prendre conscience de choses comme ça, et bien pour après en faire ce que l'on en voudra, quoi, ce que l'on en on pourra aussi.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, à ce point de vue, je rappelle que Amnesty n'appelle pas au boycott.
Oui, non, mais c'est moi qui évoquais ce problème.
À la différence d'autres ONG, nous n'appelons pas au boycott. Nous avons préféré faire porter l'accent sur la connaissance, faire connaître une situation et tenter de la faire évoluer.
Ouais. Et puis vous n'avez pas attendu, même si c'est ce soir à l'approche de la Coupe du Monde, le film il date de 2017 et j'imagine qu'Amnesty, depuis bien longtemps déjà, a alerté sur tout ça, quoi.
Mais il se trouve que maintenant, toutes les télévisions et les radios, encore ce matin, je crois, sur France Inter, la matinale était consacrée à la Coupe du Monde. Effectivement, tout le monde fait des reportages, des films, des débats. Ouais. C'est très bien. Mais il faut ensuite que toute cette critique soit prolongée.
Qu'il y ait quelque chose. Alors nous, on en parle aujourd'hui parce qu'il y a le rendez-vous ce soir à l'Auberge Landaise. Donc à partir de 20h, c'est pour ça qu'on a fait la mise en lumière, pour participer à ce fracas médiatique, parce que nous on aime bien prendre un petit peu de distance. Par exemple, on pourrait commencer à parler très vite de l'attribution des Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite, là, parce que ça aussi, comme curiosité, c'est quand même pas mal, quoi. Donc voilà, on peut.
Oui, c'est extrêmement étonnant, et ça donne, je pense, ça met la lumière sur le côté aussi géopolitique de cette affaire-là. Ah ouais. Et il est évident que pour le Qatar, la Coupe du Monde a un enjeu bien plus large que, évidemment, la Coupe elle-même, les rencontres sportives. C'est le cas pour tous les pays organisateurs, et il ne faut pas non plus exagérer. Mais ce pays qui, je le rappelle, est un pays quand même assez étonnant dans la mesure où il a 300 000, on va dire, ressortissants, 300 000 nationaux. C'est l'équivalent de la population, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin, une ville comme Montpellier. 300 000 nationaux sur 2,8 millions ou 2,9 millions de personnes, d'habitants, on va dire, ce qui suppose qu'il y a 2,5 millions à peu près, hein, évidemment, on n'a pas les chiffres très 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 précis, 2,5 millions d'étrangers qui travaillent là, et donc qui font tout dans ce pays, parce qu'évidemment, un pays avec 300 000 personnes ne peut pas régler à lui tout seul tous les problèmes qui se posent à lui. Et son premier problème, ça a été quand même son rapport avec l'Arabie Saoudite, mais aussi avec les Émirats Arabes Unis, parce que le Qatar, qui est un pays indépendant depuis 1970, qui était sous protectorat britannique, aurait dû faire partie des Émirats Arabes Unis. Il s'en est détaché. Et alors, déjà, donc, ça crée une petite pomme de discorde avec ses voisins immédiats, donc dans le Golfe, mais également en rivalité avec l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite est wahhabite, certes, comme le Qatar, mais le wahhabisme du Qatar vise davantage les frères musulmans qui ont été à l'œuvre dans les, on va dire, ça a été au moins un des vecteurs des fameux printemps arabes, le vecteur, bon, il faut dire, le plus réactionnaire, hein, absolument pas laïque et républicain, aspect que l'on a pu voir dans tout, et qui a été très très fortement réprimé. Mais enfin, donc, il y a une rivalité, on va dire, idéologique entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et donc, l'obtention par le Qatar de cette Coupe du Monde, on y revient, a créé aussi d'énormes jalousies par rapport à ses voisins et par rapport à l'Arabie Saoudite. Mmh. Et comme par hasard, vous retrouvez l'Arabie Saoudite qui organise donc les Jeux asiatiques. Alors là aussi, on marche sur la tête, quoi.
Un peu de ça.
On refait. C'est comme si tout ce qui a été mis en lumière par le Qatar, alors je dirais du point de vue environnemental, du point de vue climatique, de tous les problèmes, je ne parle pas, même pas de la question des droits humains, mais des problèmes climatiques, de l'aberration qu'il y a à organiser cela dans un pays qui affiche allègrement plus de 50 degrés en plein été, vous allez me dire. Mais enfin, quand même, bon, eh bien, on remet le couvert avec l'Arabie Saoudite, donc, qui organisera à son tour, alors on ne sait pas trop à quelle période de l'année, on peut supposer un hiver, hein, mais enfin...
C'est jamais.
Voilà, donc c'est un petit peu tragique pour la marche de notre planète, je dirais, pour parler de manière beaucoup plus générale et beaucoup plus globale, et sans rester sur la problématique... des droits humains en particulier.
La suite de ces débats ce soir, à partir de 20h, l'Auberge Hollandaise, l'entrée gratuite à l'invitation d'Amnesty International, si des débats travaillés forcés au Qatar, le film d'Adam Sobel, The Workers' Cup, et Lola Schulman, chargée donc Amnesty International d'animer ces débats et de plaidoyer Amnesty International, qui animera tout ça, Alain Ducasse.
Oui, bien, si un simple mot sur Lola Schulman, qui est effectivement une personnalité, on va dire, au sein d'Amnesty France, et qui est, comme vous venez de le dire, chargée de plaidoyer. Alors, pour les droits économiques et sociaux, on est en plein dans la problématique. Pour le droit des femmes, on aurait pu parler des travailleuses domestiques, mais enfin, ça aussi, c'est un problème terrible. et des minorités de genre.
D'accord. On va arriver au bout, Alain Ducasse, donc on va arriver au bout du rendez-vous, au niveau du timing pour la rediffusion l'après, mais pour le podcast. On aime bien aussi quand même prendre le temps d'échanger sur Radio MDM autour de tout ça, que ce ne soit pas des passages trop brefs, parce qu'on est allé un petit peu dans le vif du sujet, mais on aura l'occasion d'en reparler avec vous dès qu'Amnesty International, dans nos Gascons contrées, remettra quelque chose en route comme vous le faites. Excusez-moi de vous couper un peu Alain Ducasse.
Pas de problème.
La suite ce soir, donc, à partir de 20h, à ce rendez-vous à l'Auberge Landaise. Merci beaucoup, Alain Ducasse, d'être venu ce matin.
Et merci à vous.
Avec grand plaisir. Au revoir, Alain Ducasse, et bonne journée.
Merci.
MDM. Tout un monde.